Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau rendez-vous avec le Cercle Turgot qui va nous amener en perspective sur la question brûlante de l'euro. L'euro en question, l'esprit de Munich est-il de retour ? En effet, la crise de l'euro marque-t-elle un retour de l'esprit de Munich, c'est-à-dire de la reddition en race campagne et l'abandon du courage et du volontarisme politique au profit d'une résignation, refuge traditionnel des court-termistes. Faut-il et peut-on aujourd'hui oser défendre l'euro contre la déferlante des eurosceptiques et des europhobes sans passer pour un hérétique ? Faut-il sauver l'euro pour refonder l'Europe ou s'en débarrasser pour la sauver ? Deuxièmement, est-il envisageable, à contrario sur le plan technique et réglementaire et juridique, pour un pays de sortir de l'euro ? Quelles en seraient les conséquences pour lui ? Quels dégâts collatéraux pour l'Europe, la France et le reste du monde ? Quelles mesures seraient susceptibles de redonner une forme de légitimité à l'euro, une plus forte intégration économique et politique, supposant bien entendu des abandons de souveraineté, la mise en place d'eurobonds, comme le proposaient les présidents du Cercle des économistes et du Cercle Turgot, ou une sortie partielle par le haut, c'est-à-dire par l'Allemagne, ou par le bas, on va dire par les pays du Sud. Voilà les questions que nous nous posons. Et nous allons avoir des éléments de réponse avec deux spécialistes de la question européenne, tous les deux membres éminents du Cercle Turgot, Yves Doutriot, conseiller d'État, auteur, chroniqueur que nous avons déjà reçu sur notre antenne, et Jean-Jacques Pluchart, professeur d'université, qui est par ailleurs un lauréat du prix spécial Turgot, du meilleur livre d'économie financière. Donc messieurs, bonjour, heureux de vous accueillir sur notre antenne, de vous retrouver. De vous retrouver sur notre antenne. Alors, l'Europe, l'euro, c'est la grande question du moment. Première question, est-ce qu'on peut raisonnablement trouver des arguments qui s'inscrivent à contrario, on va dire, d'un certain consensus qui voudrait jeter l'euro aux gémonies ?
D'abord, la première question qu'il faut se poser, est-ce que c'est véritablement une crise de l'euro ? On n'a jamais vu l'euro aussi haut au regard des autres monnaies, notamment le dollar. En réalité, il y a de graves crises budgétaires et de la dette dans un certain nombre de pays qui appartiennent à l'euro. D'ailleurs, d'autres pays connaissent aussi des difficultés budgétaires, je pense au Royaume-Uni, qui se trouve en dehors de l'euro. Ces pays, qu'il y ait euro ou pas, il est évident qu'il y a eu des erreurs économiques faites en Grèce, par exemple. En Espagne...
Alors je précise que c'est Yves Doutriot qui donne son avis, je crois que je ne l'ai pas présenté.
En Espagne, les ménages privés se sont très lourdement endettés en vue d'acquérir des biens immobiliers. Finalement, la question de l'euro est relativement indépendante par rapport à ces situations. Mais il se trouve que, comme les deux pays que j'ai cités, l'Espagne, Portugal et puis évidemment la Grèce, font partie de l'euro, certains instruments qui étaient dans leur passé à leur disposition pour sortir de ces crises de la dette et des déficits budgétaires, qui était la dévaluation, aujourd'hui cet instrument n'existe plus du fait de l'euro. Donc ce n'est pas tellement une crise de l'euro qu'une crise rencontrée par des pays qui sont heurtés à des problèmes de politique économique et qui ont eu une mauvaise gestion économique, une mauvaise anticipation. Et il faut trouver à ces pays, en dépit du fait qu'ils appartiennent à l'euro, les moyens pour les aider à surmonter cette crise. Et c'est ce que fait l'eurozone aujourd'hui. On essaie de trouver des dispositifs pour permettre à ces pays de sortir difficilement de la crise, quand bien même ils appartiennent à l'euro.
Oui, mais on voit qu'il y a de plus en plus de scepticisme parce que les plans qui s'additionnent, notamment par rapport à la Grèce, laissent penser, en tout cas à certains économistes. Je vous rappelle le livre récent qui a été publié par Jean-Jacques Rosa, dans lequel il proposait tout simplement de se débarrasser de l'euro, qui est un ouvrage qui a été publié chez Grasset, tandis que le trio Jacques Saphir, Gérard Laffey Et Philippe Villain proposait dans une chronique du Figaro très récemment d'abandonner l'euro pour sauver les Européens. Donc on est finalement dans un système de perte de confiance sur la capacité et la volonté des politiques, des chefs d'État, d'arriver à surmonter ces difficultés. Alors il y a probablement un problème de communication. Le président Obama a parlé de cacophonie, si je me souviens bien, ce qui a d'ailleurs été assez mal apprécié. Jean-Jacques Puchart, vous de votre côté, est-ce que vous pensez qu'on est en train d'arriver avec ce énième plan en faveur de la Grèce au bout du bout et où, enfin, on fera penser aux agences de notation que l'Europe et l'euro sont sur le bon chemin?
Oui, je voudrais simplement rappeler que depuis la création de l'euro, enfin à la fin des années 90, il y a toujours eu les europhobes et les europhiles qui oui, se sont affrontés et qui ont développé depuis 12 ans de très nombreux scénarios qui vont de la disparition, suppression pure et simple de la zone euro à l'évacuation d'un certain nombre de pays que les anglo-saxons appellent de manière un peu péjorative les pigs aujourd'hui, passant par un certain nombre de réaménagements. Et nous sommes dans ce scénario qui est reconnu, que je crois validé, par la plupart des grandes institutions mondiales, non seulement européennes, mais également américaines. Permettez-moi de rappeler quand même en quelques mots quels sont les arguments qui sont mis en avant par les europhobes.
C'est ça.
Avant de répondre, que je garde bien en mémoire votre question. Bon, il y a le fait, d'une part, que l'euro fort, il a doublé entre son plus bas et son plus haut niveau, quand même, depuis 12 ans.
0,80 quelque chose.
0,80 à plus à 60, il est à 43 actuellement. Eh bien, a pénalisé, évidemment, les industries exportatrices. Les pays qui n'ont pas su faire les efforts de productivité pour compenser ce handicap monétaire, à l'instar de l'Allemagne, bien sûr, qui a accepté une austérité salariale. Donc, ces pays, aujourd'hui, sont en grande difficulté et en fragilité. C'est le cas, donc, des fameux « pics », entre guillemets. Le deuxième argument, c'est que peut-être la BCE a maintenu, mais un peu à l'instar aussi de la Fed, aux États-Unis, des taux d'intérêt très faibles qui ont encouragé les investissements des entreprises, certes, pour ça favoriser l'activité économique. Ça compensait un peu les difficultés des exportateurs, mais également des ménages. Et donc, ça a nourri la crise immobilière, qui était en partie importée des États-Unis, mais qui est aussi quand même européenne, et le surendettement des ménages. Le troisième argument, qui est le moins avancé dans le grand public, mais qui me semble le plus sérieux, le plus robuste, il est mis en avant, en fait, par le prix Nobel d'économie Krugman. Il est d'ailleurs corroboré par un certain nombre d'études de Patrick Artus, bien connu en France, qui dit « lorsque l'on adhère à une grande zone monétaire, cela favorise les inégalités régionales. Donc les plus faibles vont se fragiliser de plus en plus, les plus forts, et c'est le scénario, comme l'Allemagne, vont au contraire se renforcer. Et ils vont se retrouver, pour les plus faibles, dans des spirales. Et là, la Grèce est en plein dans ce scénario de déficit budgétaire. Actuellement, c'est 10% du PIB chaque année. Dans les projections, on a s'il n'y a pas effectivement un plan d'austérité efficace, c'est 10% chaque année pendant 3 ou 4 ans, ce qui veut dire un endettement qui est déjà de 150% du PIB, record européen aujourd'hui, qui ne fera que s'accroître. Donc il y a eu un premier plan. Il y a eu un premier plan en 2010, de 30 milliards, bon, qui était un peu flou, les mesures pour un tiers ou moins d'entre elles n'étaient pas très spécifiées. Il y en a un second, à nouveau à peu près 30 milliards, un peu moins de 30 milliards, qui semble plus sérieux, qui est avalisé par notamment le FMI, et donc qui devrait, du moins pour la partie équilibre budgétaire, dans les trois prochaines années, permettre à la Grèce de retrouver certain équilibre. Mais il n'en reste pas moins qu'elle a une charge d'endettement de 150% du PIB, qu'il faut qu'elle résorbe. Et c'est tout l'intérêt du plan, enfin des différents plans. Il y a eu l'initiative de Vienne, il y a eu le plan français, qui est dû au manque, mais aussi Jean-Claude Trichet, qui était président du Club de Paris. Et donc, est un grand spécialiste des moratoires, des rééchelonnements, etc.
Le rollover, comme disent les spécialistes.
Le rollover. Et donc, pour l'instant, nous en sommes là. Donc, à court terme, bien sûr qu'une solution va être trouvée grâce à l'habileté de nos ingénieurs financiers, Jean-Claude Trichet en tête. Mais à moyen terme, à quelques années, le risque systémique sur les pigs va subsister. Ce qui veut dire, ce que vous le disiez...
Le courage fuyant.
Non, ça veut dire... du courage politique, de la volonté politique.
Engageons-nous.
Voilà, ça veut dire une coopération budgétaire. Un certain fédéralisme, d'ailleurs réclamé par Jean-Claude Trichet lui-même. Un fédéralisme budgétaire. Ce qui veut dire des abandons de souveraineté. Ce qui veut dire, en période électorale, il faut être particulièrement courageux pour proposer de tels plans. Ça veut dire une politique industrielle aussi, à l'échelle de l'ensemble de la zone euro. des 17 pays de la zone euro. Et donc on en est encore loin aujourd'hui. Ces points-là ne sont jamais inscrits dans les campagnes électorales des différents candidats aujourd'hui dans tous les pays européens et notamment en France.
Alors oui, tout à fait.
Donc on peut se poser des questions.
Tout à fait. Nous avons reçu un autre membre éminent du Cercle Turgot, Nicolas Bouzou, auquel nous parlions des propos de pré-campagne. Et donc, on revenait sur le rôle des politiques. On en est exactement sur ce même plan avec les politiques au niveau européen. Et évidemment, ce que les marchés et les agences de notation perçoivent, c'est un grand flou. C'est-à-dire que des déclarations qui sont un petit peu contradictoires, quelquefois frileuses, et donc qui ne donnent pas l'impression aux observateurs et aux acteurs de marché qu'il y a une détermination suffisamment forte.
Alors, la difficulté, c'est que c'est un peu inhérent à la construction européenne. On ne peut pas comparer les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. On parle de cacophonie, certes, mais nous avons 27 États souverains, même s'ils ont partagé leur souveraineté sur la monnaie, par exemple. Fatalement, il faut qu'émergent des compromis, des difficultés. Lorsque la crise irlandaise puis la crise grecque sont apparues, il a fallu des mois de dialogue difficile entre le président Sarkozy et Mme Merkel pour qu'au bout du compte, on prenne des décisions courageuses. Mais évidemment, les spéculateurs court-termistes s'appuient sur telle ou telle déclaration malencontreuse à tel ou tel moment. Alors en fait, je ne reprends pas l'expression crise de l'euro puisque je la récuse, mais il est vrai que quand on a créé l'euro, il faut se souvenir, en 1992, c'est un accord politique au plus haut niveau entre le chancelier Kohl et François Mitterrand. C'était un peu, pour simplifier, nous acceptons la réunification allemande. La chute du mur était intervenue en 89. Mais en contrepartie, il faut renforcer l'Europe. Et renforcer l'Europe, c'était la France qui, depuis fort longtemps, voulait ce qu'on appelait à l'époque l'écu, qui est devenu ensuite l'euro, parce que le chancelier Kohl trouvait que écu en allemand, ça voulait dire la vache. Ce n'était pas tout à fait une expression appropriée. Mais donc,
en marketing, ce n'était pas très bon, quoi.
En réalité, ce compromis, la Bundesbank de l'époque a voulu qu'il se fasse aux conditions de la Bundesbank et que notamment la Banque Centrale Européenne ne devait absolument pas accorder de ligne de crédit aux pays en situation moins favorable. Et chaque pays devait tenir une politique économique de rigueur. La discipline budgétaire, elle est dans le traité de Maastricht. Bon, il se trouve que les pays n'ont pas réellement appliqué le pacte de stabilité, cette discipline budgétaire. Et c'était la France, dès l'origine, qui rappelait qu'il fallait, vous vous souvenez de l'expression, gouvernement économique de l'Europe.
C'est ça.
Et c'est-à-dire, en fait, une sorte de coordination des politiques budgétaires, des politiques économiques. Bon, ceci n'a jamais été fait. Et c'est ces difficultés considérables que nous rencontrons aujourd'hui qui vont nous amener difficilement à mettre en œuvre ce qu'on avait voulu, nous, pour accompagner l'euro. C'est une sorte de gouvernement économique de l'Europe, pour simplifier, une coordination des politiques économiques. Et c'est ce qui a été convenu avec le fameux semestre européen, premier semestre de chaque année, qui amène tous les États de l'eurozone, dorénavant, à envoyer leurs premières épures de projets de budget, avant même qu'ils ne soient avalisés par les parlements nationaux, à un contrôle multilatéral organisé autour du Conseil des ministres de l'eurozone et la Commission européenne. Alors, cette coordination, il aurait fallu la faire dès 1992. Puis je voulais aussi rebondir sur un point très important que Jean-Jacques Pluchart a évoqué, qui est les déséquilibres régionaux. Il est évident qu'aux États-Unis aussi, même s'il y a le dollar, il y a des déséquilibres régionaux. Mais il y a la compensation budgétaire qui se fait par le budget fédéral. Le budget fédéral, c'est 20% à peu près de la richesse nationale aux États-Unis. Le budget européen, c'est 1%. Ouais. Beaucoup ont évoqué, mais je me souviens que Dominique Strauss-Kahn l'avait dit il y a 6 mois, qu'il fallait augmenter le budget européen. Évidemment, en période préélectorale, c'est absolument pas ce que préconisent d'ailleurs ni la France, ni l'Allemagne, ni le Royaume-Uni, enfin les pays contributeurs nets au budget européen. Mais il est vrai que si on veut faire du long-termisme, il faut plus de redistribution, plus d'aide au développement pour sortir ces pays de la crise. D'ailleurs, pas seulement eux, il y a aussi les pays qui sont en dehors de l'euro, mais membres de l'Union européenne, qui sont les pays de l'Europe orientale. Et alors, on a des fonds structurels, on a le Fonds européen de développement régional, on a le Fonds social européen, mais il faudrait engager plus de financement européen. Encore faut-il que les contribuables des pays contributeurs nets l'acceptent.
D'accord. Donc encore faut-il que les hommes politiques en situation soient prêts à affronter en quelque sorte leur opinion publique pour leur montrer, peut-être contre le consensus latent, quelle est la voie de l'espoir et de l'avenir de l'Europe. Or, effectivement, comme vous le dites, en période électorale, il y a des allers-retours plus que des éclairages définitifs vers l'avenir de l'Europe. Alors, effectivement, c'est ce que disent Christian Saint-Étienne, c'est d'ailleurs d'une certaine façon ce que dit aussi Jean-Jacques Rosa. On n'est pas dans une zone monétaire idéale. Ça, c'est, je crois que c'est absolument évident. C'est ce que Yves Doutriou disait sur les divergences économiques, etc. De niveau, d'activité, de croissance et tout ce qu'on veut. Mais je pense qu'au moment de la création de l'Europe, des grands fondateurs, il y avait encore plus de bonnes raisons de penser que c'était impossible. Donc finalement, il me semble, et ça je voudrais bien avoir votre avis sur ce point, que c'est plus la volonté, c'est-à-dire la volonté de dépasser l'obstacle qui est la réponse aux aspects techniques, qui bien entendu, aux faiblesses intrinsèques de l'euro, qui est la bonne réponse à la capacité à surmonter cette crise qui commence à devenir préoccupante, Jean-Jacques.
Oui, je crois que ça va au-delà d'une volonté, c'est quasiment une exigence, parce que j'émettrai un sentiment personnel. Il me semble que les gouvernements européens, et même au-delà, les gouvernants des grandes institutions internationales, sont au pied du mur, parce qu'il ne peut pas y avoir, où ça me semblerait extraordinairement difficile, là tout le monde est d'accord, ou quasiment tout le monde est d'accord, de retour en arrière, c'est-à-dire de dissolution de la zone euro, ou d'abandon des PIGS. On ne va pas, à nouveau, comme c'est d'ailleurs très développé dans la presse, dérouler tout l'effet de domino, l'effet de contagion que ça entraînerait. Les économies d'aujourd'hui sont très interconnectées, au niveau à la fois des États-nations, mais ensemble des grandes entreprises, des grands établissements financiers. Donc ça paraît très difficile. À court terme, compte tenu des fragilités systémiques, structurelles des pays périphériques, des économies périphériques, l'Europe est engagée dans des programmes récurrents chaque année de sauvetage de ces économies. Puisque les inégalités régionales, s'il n'y a pas de stratégie industrielle, vont s'accroître.
C'est
un tonneau des Danaïdes. Et ce sera de plus en plus difficile. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 600 000 milliards de CDS, Credit Default Swap, des fameuses garanties sur les créances des États et des banques, qui sont immédiatement dégradées dès qu'on parle de rééchelonnement, on parle de moratoire, etc. Donc, entrer dans cette spirale d'arrangement, de bricolage, entre guillemets, financier, ça paraît difficile à moyen terme. Donc, que reste-t-il ? C'est là qu'on peut peut-être citer Edgar Morin qui dit toute crise révélateur d'un désordre sous-jacent, mais aussi un effecteur d'un nouvel ordre. Alors, dans notre cas, c'est un nouvel ordre financier. Donc, ça veut dire aller plus loin dans l'intégration. Enfin, peut-être faire une pause dans l'élargissement de la zone euro. Ça, tout le monde l'attend, tout le monde l'appelle de ses voeux. Mais également, peut-être aller plus loin dans l'intégration.
Oui, c'est ça. Alors, effectivement, au moment où on réfléchit à une meilleure intégration, on s'étonne, enfin, certains observateurs s'étonnent du projet d'arriver d'un nouvel État, la Croatie. Enfin, c'est à un moment donné, il y a bien un certain nombre de logiques qui se superposent, et en tout cas qui sont vues du côté des opinions, qui restent des interrogations. Alors, on dirait que la Croatie, c'est je ne sais pas combien du PIB, mais enfin, c'est quelque chose d'infime.
Surtout, la Croatie ne va pas entrer dans l'euro demain.
Non, c'est deux ans, je crois.
Voilà. Elle entre dans l'Union européenne, mais
pas dans
l'euro.
Pas dans l'euro.
Enfin
bon, il y a des phénomènes qui se superposent et qui sont de plus en plus incompréhensibles.
Je voulais revenir une seconde sur le choix et l'engagement des politiques. Bon. L'autre solution, puisque vous parliez de Munich tout à l'heure, l'autre solution, c'est revenir à l'après 1929. Là, il n'y avait pas de monnaie unique et chacun a dévalorisé sa monnaie et on a vu à quoi ça nous amenait. À la réapparition, évidemment, de barrières douanières qui existaient encore à l'époque.
Nationalisme et la Serbie.
Et puis, ça nous a conduit directement à la guerre. Bon, alors franchement, imaginer un retour en arrière, ça me paraît une option absolument à exclure. On ne peut sortir que par le haut. Alors évidemment, on ne va pas tripler, quadrupler le budget de l'Union européenne. Les contribuables ne sont pas prêts à le faire. En revanche, s'il fallait s'adresser aux opinions publiques, hein, françaises, allemandes, c'est que finalement, nos intérêts même se retrouvent dans notre capacité à exporter des biens et des services vers la Grèce, vers l'Espagne, vers le Portugal. Bon, évidemment, l'Allemagne est un grand pays exportateur, mais qu'on ne dise pas qu'elle n'exporte qu'en Chine.
Non, 60% je crois en Europe. Hein.
Voilà. Et donc, notre intérêt bien compris, l'intérêt de nos entreprises, l'intérêt de nos emplois, notre taux de chômage, est lié d'une certaine manière à celui des pays du sud de l'Europe, de l'est de l'Europe. Et donc, c'est notre intérêt. Et je pense que tous les hommes politiques raisonnables à la tête des démocraties d'Europe occidentale l'ont bien compris. Alors, est-ce qu'elle devrait le dire plus fort En tout cas, je constate que autant en France qu'en Allemagne, avec beaucoup d'hésitation, on s'est quand même engagé. Malheureusement, on a perdu du temps et la spéculation internationale.
Et ça, les marchés n'aiment pas ça, quoi.
Oui, mais bon, ce qui est important, c'est le long terme.
D'accord. Donc, vous restez pour le long terme optimiste. Un dernier point pour évacuer définitivement cette envie ou ce risque de sortir de l'euro, ce sont les aspects juridiques et réglementaires. Alors vous, Yves Doutriot, qui êtes un spécialiste historique de la question européenne, en quelques mots, est-ce que ce serait facile finalement pour un grand pays de sortir de l'euro ?
D'abord, il faudrait l'unanimité, il faudrait changer les traités. Ça serait revenir, si vous voulez, c'est la boîte de Pandore.
C'est ça.
À partir du moment où vous réouvrez une partie du traité autour de la monnaie unique, alors là, évidemment, on ne parle que de l'eurozone, pas du reste, eh bien, ça redeviendrait l'Europe à la carte. Hein. Moi, je sors de ci, tel autre sort de cela. Ouais. Vous savez, l'Europe à la carte, elle existe en même temps, en parallèle de,
oui,
de l'Union européenne.
Il y a certains pays qui sont...
Vous avez vu que, par exemple, la France et le Royaume-Uni ont été en Libye. Bon, pas l'Allemagne, c'est bien un exemple tout récent, immédiat, qui montre que c'est bien l'Europe à la carte. Mais le cœur de la construction européenne, c'est-à-dire le marché intérieur pour l'eurozone, l'euro, les institutions communes, ça, c'est vraiment le cœur. Alors, si on commence à affecter ce cœur, moi, je crains beaucoup que, eh bien, on ouvre une boîte de Pandore et de fil en aiguille, tout va se détricoter. Vous savez, vous aviez parlé d'Edgar Morin, juste Hannah Arendt aussi a dit que c'est avec la crise. Bon, eh bien, l'Europe, elle a toujours marché à la suite de crises. On a eu la Général de Gaulle, la chaise vide. Bon, on a fait la politique agricole commune. Après, il y a eu Madame Thatcher à Rambouillet qui voulait son chèque. Eh bien, on a fait l'acte unique. Ouais. Après, il y a eu la réunification allemande. On a fait Maastricht. Eh bien, voilà, chaque crise appelle un développement ultérieur.
Je me permettrai d'ajouter une phrase simplement. Ouais. Au-delà des aspects juridiques, il y a aussi des aspects politiques et j'irais presque sociaux, parce qu'une monnaie, ce n'est pas qu'un instrument d'échange et de réserve. Ça crée du sens politique et du lien social. Et donc, le fait ne serait-ce que d'abandonner une des économies périphériques, ce serait... l'échec de l'idée même d'Europe, la notion de citoyen européen. Donc, c'est une grande idée du né au XXe siècle qui, en définitive, serait mise à mal. Donc, je dirais, quel échec pour l'ensemble du vieux continent. Il faut le voir aussi en ce sens.
Voilà donc quelques éléments de réponse et de bon sens pour celles et ceux qui avancent sur l'euroscepticisme et l'europhobie. Par donc Yves Doutriot et Jean-Jacques Pluchart, qui sont des membres éminents du Cercle Turgot, leur message étant, au-delà de la crise, il y aura le sursaut et le rebond. Ne désespérons pas, en tout cas ce serait folie que de s'inscrire sur ces propositions irresponsables de sortie de l'euro. Et puisque vous avez chacun cité les deux grands intellectuels, je voudrais, moi, rappeler ce que disait récemment l'ancien vice-chancelier allemand. En dépit de la crise politique et de la paralysie de l'Union européenne, les Européens ne doivent pas oublier à quel point son existence est importante. Aujourd'hui, et continuera de l'être, il suffit de se remémorer la première moitié du XXe siècle. L'Europe, c'est l'Europe de la paix et de la prospérité, en tout cas, on l'espère pour l'avenir. Messieurs, merci une nouvelle fois pour ces réflexions du Cercle Turgot. À très bientôt.